Bienvenue dans l'émission de La Langue Brune qui est aujourd'hui consacrée à Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine. À propos de sa peinture, Frida disait « Il pensait que j'étais une surréaliste, mais je ne l'étais pas. Je n'ai jamais peint de rêve. J'ai peint ma réalité. » Frida Kahlo était aussi une femme engagée politiquement. Elle adhère au Parti communiste post-révolutionnaire au Mexique. Et à la même période, on voit émerger une nouvelle et une des plus importantes expressions artistiques au Mexique, le muralisme. Et c'est aussi à cette période que Frida rencontre Diego Rivera, un des grands peintres du mouvement, avec qui elle entretient une relation passionnée, d'un amour aussi ardent que tumultueux. Donc Frida aussi peint, et elle, ses peintures sont le reflet d'une très grande souffrance que lui procure son état de santé très fragile, et il reflète également la solitude qu'elle a pu endurer dans son lit de la Casa Azul. Cette vie de douleur, paradoxalement, est aussi un hommage à la vie à laquelle elle y est férocement attachée, parce que on parle d'une vie douloureuse et tragique, mais elle fut surtout très flamboyante. Vous allez entendre des extraits de Viva la Vida, écrit par Pino Cacucci aux éditions Bourgois, dans lequel l'auteur se glisse dans la tête de Frida Kahlo et raconte à la première personne les pensées les plus intimes et les moments les plus importants de l'existence de la grande peintre mexicaine.
Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana. Y ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito. Y ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, ni con pretensiones de chuparme usted.
Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar.
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito.
Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Ninguna, 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 no ve, tengo pretensiones de chuparme usted.
Je suis allée à mon enterrement dans la pluie légère d'une fin d'après-midi, dans un autobus qui me ramenait à Coyoacán. Il pleuvait à l'angle de cette rue, il pleuvait sur le carrefour de ma vie. Avenue Cinco de Mayo, l'immense place du Zócalo, le marché San Juan. Je n'aurais pas dû être dans cet autobus. J'étais déjà montée dans un autre, je rentrais à la maison, lorsque le destin a pris la forme d'une stupide ombrelle de promenade. Un parasol, oublié je ne sais où. Et je suis descendue, je suis revenue sur mes pas. Je ne me rappelle même plus si je l'ai retrouvée, cette ombrelle. Et ainsi je suis montée sur mon char funèbre. Au coin du marché San Juan, un tram nous a foncé dessus, nous a éperonnés, s'est accroché à nous. Cela n'a pas été une collision, plutôt une lente dévoration. Je me souviens de cette lenteur absurde, irréelle. Le tram nous écrasait contre un mur et l'autobus se contractait, se repliait sur lui-même, se comprimait. Je n'ai pas eu peur. Tout était si absurde qu'on ne pouvait pas avoir peur. Ce qui se passait n'avait pas de sens. Puis tout à coup, le monde a explosé. L'autobus pour Coyoacán, pour la Casa Azul, s'est désintégré. Et moi, un instant ou un siècle après, j'étais une danseuse couverte de sang et d'or. J'entendais les gens qui criaient « La danseuse, la danseuse !» Je n'éprouvais rien. Je ne me rendais pas compte de la situation. Je n'avais mal nulle part parce que j'étais en train de me détacher de la vie. Mais je m'étonnais qu'ils m'appellent la danseuse. Avant l'apocalypse, un artisan avec un sac de poudre d'or sur les genoux était assis à côté de moi. Après, j'étais complètement nue et recouverte d'or. La danseuse dorée au milieu des cadavres. Ils m'ont allongée sur une table de billard et à ce moment-là, quelqu'un a vu. Une rampe de 4 mètres était entrée dans ma hanche. Elle m'avait transpercée comme l'épée transperce le taureau. Elle m'avait empalée. La pointe ébréchée ressortait par mon vagin. À 18 ans, j'ai été violée par une rampe dans cet autobus qui aurait dû me tuer sous une pluie d'or. Un homme me l'a arrachée d'un geste décidé. Je ne saurais jamais s'il m'a sauvée ou condamnée, mais ce fut quand même une condamnation. À cet instant, j'ai lancé un hurlement si fort qu'il a parcouru des pâtés de maisons entiers, glacés de la grande place mouillée de pluie, réveillée par la forêt de spectres qui peuple les entrailles de la défunte Tecnotitlan et fait claquer les dents les crânes du Templo Mayor. Un hurlement si fort a fait fuir la Pelona, la chienne pelée, la mort qui dansait autour de moi et qui allait devenir mon inséparable compagne. Ce 17 septembre 1925, la mort m'a regardé fixement dans les yeux, a observé mon corps nu, ensanglanté, couvert de poussière d'or. Et pendant qu'elle s'apprêtait à tendre ses bras vers moi, quand j'ai senti son haleine glacée, j'ai lancé ce hurlement qui ne pouvait pas sortir de la gorge d'une moribonde, un hurlement de rage, un hurlement d'amour pour la vie que je ne voulais pas abandonner à 18 ans. J'ai hurlé mon « Viva la vida !» Et la Pelona, abasourdie, est restée stupéfaite au moins autant que les vivants qui se pressaient autour de moi. Je ne pouvais pas encore être vivante. Il était impossible que ce corps transpercé de part, empalé d'une manière obscène et hypocritement recouvert d'or, la colonne vertébrale brisée en trois, les deux côtes, l'épaule et la jambe gauche cassées, un lac de sang, un massacre, fût encore vivant. Pourtant de mon corps dévasté s'est échappé ce hurlement de rage pour la vie. J'ai toujours croqué la vie. Ce jour-là, j'y ai planté mes dents mais aussi mes ongles. À l'hôpital, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Plutôt qu'une opération, ils ont dû faire un collage, un casse-tête, pour chirurgie un patient. Je suis restée immobile tout un mois dans cet hôpital de la rue San Jeronimo. 30 jours de torture silencieuse, des nattes trempées de larmes. 1000 heures, des millions de minutes et de secondes. Une éternité enfermée dans un sarcophage de plâtre et de fer, dans un suaire pourri d'infections et de sang caillé, de blessures qui ne cicatrisaient pas et de gangrènes immondes. Puis encore des mois confinés dans mon lit de la Casa Azul, ma maison bleue, dont ils disaient que je ne sortirais plus. En ces journées interminables, j'ai commencé à peindre. Je ne pouvais bouger que les mains. Je ne pouvais voir que moi, mon visage réfléchi dans un miroir. La peinture est devenue ma seule raison d'attendre l'aube, l'aube qui semblait ne jamais arriver. Aujourd'hui, la seule chose que je sache, c'est que je peins parce que j'en ai besoin et je peins tout ce qui me passe par la tête sans me demander si cela a un sens. J'ai commencé en me peignant moi-même parce qu'il n'y avait personne d'autre ni rien d'autre autour de moi. Mais était-ce mon visage dans ce miroir? Ou était-ce la Pelona qui s'incarnait en moi, qui entrait en moi jusqu'à se fondre et se confondre en cette éternelle saison des pluies qui est ma vie? Et puis un jour, j'ai recommencé à marcher. Un miracle, ont-ils tous dit. Non, allons donc. Quel miracle. La vie avait décidé de m'assassiner lentement. Même recommencer à marcher faisait partie de cette lente mort quotidienne. Parce que la vie que j'aimais tant me privait du droit de donner la vie. Elle me permettait de savourer celle des autres, mais pas de l'engendrer dans mon ventre, lacéré. À 4 reprises, j'ai conçu le fils et la fille que j'aurais voulu, mais la vie les a assassinés tandis qu'ils commençaient à bouger dans mon ventre. J'ai raillé la Pelona. J'ai hurlé mon obstination à vivre à la face de la mort. Mais elle, la garce, m'a pris 4 enfants et ne m'a laissé en échange que la solitude immense, infinie, désolée et délibitante de mes jours de larmes. J'ai commencé à peindre couché. Les médecins disaient que j'allais rester paralysée. Et au contraire, je me suis relevée. Et un jour, je suis allée chez lui, avec 3 de mes tableaux. S'il avait su, s'il avait pu imaginer que c'était moi la petite fille qui lui jouait de vilains tours quand il flirtait avec l'un de ses modèles pendant une pause de ses interminables murales, celle qui, de derrière une colonne, lui criait « Attention Diego, voilà ta femme loupée !» Ce jour-là aussi, il peignait les murales du ministère de l'instruction publique. Il était perché sur un échafaudage, je l'ai appelé. Il a regardé en bas, il a dû voir une jeune fille de 20 ans au corps nerveux et je sais ce qu'il a attiré depuis le début. Mes sourcils, qu'il a toujours qualifié d'ailes de mouette noire. Il est descendu, incroyablement agile pour cette corpulence pesante et il m'a dévisagé de sa merveilleuse bouille de crapaud. Il n'y a que moi qui sache comme Diego est beau, seulement moi. Il est comme un cactus mexicain, fort et puissant, poussé dans le sable et la pierre volcanique, hérissé d'épines pour les étrangers et avec un cœur de douce tendresse qu'il ne révèle qu'à moi. Il s'est placé devant moi, le double de ma stature et même de mon âge, et pesant le triple, et il m'a longuement scruté. Un regard pénétrant. Comme s'il se perdait dans le noir de mes yeux et chercher une lueur dans l'abîme que je porte en moi. Mais moi, j'ai été expéditive. J'étais trop embarrassée et je lui ai dit « Je ne suis pas venue ici parce que j'ai du temps à perdre et je ne veux pas te faire perdre le tien non plus. J'ai besoin de gagner ma vie. J'ai peint quelques tableaux et je voudrais que tu les regardes en professionnel. Je te demande un jugement sincère parce que je ne cherche pas de compliments. Je ne peins pas par vanité. Je voudrais savoir si tu penses que j'ai un brin de talent pour continuer ou si je ferais mieux de me trouver un autre métier, c'est tout. » Je l'ai sidéré. Il a regardé les tableaux, 3 autoportraits. Impitoyable, sensible, peut-être sensuel. Au moins, c'est ce qui lui a semblé, car il a essayé de se lancer dans une série d'éloges. Mais je l'ai tout de suite interrompu. Trêve de compliments, je veux des critiques sérieuses. J'ai eu tant de compliments de gens qui s'efforçaient d'être gentils, mais on voyait bien qu'ils n'étaient que gênés. Parce que devant mes tableaux, il est beaucoup plus facile d'être ébranlé que charmé. Il a voulu voir le reste, de mes peintures et de moi. Le dimanche suivant, il est venu chez moi, 126 rue de Londres, à Koyakan, ici, dans la Maison Bleue. Et puis il est revenu plusieurs fois. Nous nous sommes embrassés. Ce n'est que lorsque je suis tombée amoureuse de Diego avec une telle force, une sorte d'abandon total, que j'ai compris ce qu'était l'amour. Pour les miens, ce fut un drame. Mon père restait muet, préoccupé. Mais pour ma mère, fervente catholique tellement liée aux traditions, Diego était un communiste, un homme sans foi, un divorcé qui buvait trop et avait de surcroît la réputation de passer d'un lit à l'autre. On ne comptait plus les femmes qu'il avait eues. « Et il est si laid, si gros !» criait-elle. Et peu lui importait qu'il fût le plus fameux artiste du Mexique, qu'avec lui, j'eusse pu vivre dans l'aisance, surtout qu'après l'accident, nous étions réduits à la misère par le prix des soins et des opérations. Rien. Elle ne voulait pas entendre raison. Pauvre maman. Elle ne comprenait pas que désormais, rien n'aurait pu m'arrêter. Je suis allée à la mairie et j'ai fixé la date. 21 août 1929. Ce jour-là, je me suis fait prêter une jupe longue, un corsage et un châle par notre domestique. J'ai mis mon appareil au pied pour pouvoir rester debout le temps nécessaire et je l'ai épousé. L'éléphant et la colombe, ont écrit les journaux.
Deux fusils, quatre pistolets et un couteau à cran d'arrêt s'en vont à Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'avance cet arsenal qui a pour nom Pancho Villa. Tout à l'heure au pied du calvaire, il dira une courte prière. Puis il reprendra ses jurons et son chemin et sa chanson. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa. Quatre fusils, 10 pistolets, 15 couteaux à cran d'arrêt viennent de Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'en vient tout cet arsenal. On recherche Pancho Villa. S'ils vont du côté du calvaire, ils trouveront le révolutionnaire. Ils lui feront entendre raison. Ou bien avaler sa chanson. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa. Deux fusils, quatre pistolets et un couteau à cran d'arrêt Aleta Guadalajara. Ce fut un fameux carnaval quand on fit sauter l'arsenal qui s'appelait Pancho Villa. Il est là au pied du calvaire. Il vient de mordre la poussière. Les vautours ne lui laisseront que les os et les éperons. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa.
Toi, ils t'ont ramassé dans une poubelle. 40 ans ont passé et je ne parviens pas encore à l'oublier, cette phrase de ma demi-sœur Maria Luisa. Toi, ils t'ont ramassé dans une poubelle. J'aime m'imaginer comme Tlazoteol, déesse aztèque de la pureté et de la saleté, le vautour femelle qui avale les ordures pour assainir le monde. Tout mon univers était dans le petit faubourg de Coyoacán, un monde qui a commencé très vite à m'opprimer depuis que les enfants me criaient « Frida, patte de poteau !» Frida, jambe de bois, parce que je boitais à cause de la poliomyélite, de la jambe que je n'ai plus maintenant. Mais à quoi me servent des jambes si j'ai des ailes pour voler? J'ai tété la vie au sein d'une nourrice indienne. Ses mamelons sentaient la terre humide, terre mère, tonandine, tonandine vierge de Guadalupe, au manteau de firmament. Notre-Dame au visage noir, Notre-Dame de la solitude. Je suis seule. La vie silencieuse, génératrice de mondes obscurs, combien de fois l'ai-je lacérée de mes hurlements de biche blessée? Vêtements de Tehuana, rayons de lumière, douleurs qui sont des couleurs, soleils aveuglants. Je suis transpercée par les couleurs comme des rayons de soleil transpercent un vampire. Le soleil se lève et la mort s'éloigne. Le soleil se lève et je recommence à vivre et à mourir. Ces mamelons avaient un goût de sève, sève de grand capoquier, cet arbre sacré pour ma nourrice indienne, l'arbre Wakachang, croix cosmique de la vie. Mais moi j'étais née fille de Coatlicou, mère impitoyable de la métamorphose. C'était La Langue Brune, une émission consacrée à Frida Kahlo, à partir de la trilogie dédiée aux femmes passionnées qui ont animé le Mexico artistique de la première moitié du XXe siècle, qui est écrit par le journaliste et scénariste Pino Cacucci, je vous le rappelle, et c'est aux éditions Bourgois. Cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de la radio principeactif.net ou tout simplement sur la page Facebook de La Langue Brune. Parmi les musiques qui ont accompagné ces lectures, quelques-unes sont tirées de la BO du film Frida de Julie Taymor, sorti en 2002, avec la fameuse Salma Hayek en rôle principal. Vous avez aussi entendu Calexico et Serge Gainsbourg, et je ne peux pas finir cette émission sans un clin d'œil à Jimi Hendrix avec la version mariachi de Willie DeVille, Hey Joe, qui évidemment est un hommage au Jimi Hendrix Experience qui a fait sa première prestation officielle le 13 octobre 1966 au cinéma Novelty à Évreux. Et je tiens tout particulièrement à remercier mon référent musical qui se reconnaîtra, qui a des idées lumineuses quant à l'orchestration de ces lectures. Quant à nous, nous nous retrouvons le samedi 3 novembre pour une nouvelle émission de La Langue Brune. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.
Uno, dos, un, dos, tres.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know, still 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Alright. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just cause I shot her. Just cause I shot her down. Alright.